demain, Saint-Jean-Baptiste. Et pour jeudi et vendredi, Véro va être là avec Anto puis Nathan dans le retour. Bon été, les amis.
Salut. Salut.
Keep on rolling, baby. Boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi. Et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables. Keep on rolling, baby. Le Pit Stop avec Denis Gravel, 7h55. L'Open Mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Encore un merveilleux spécial avec Nick Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables qui est avec nous ce soir. Salut Nick!
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Je débute l'émission en souhaitant nos sympathies à tous ceux qui ont été visés par ce qui s'est passé sur l'île de Montréal. Je sais que tu n'es pas très loin, tu es dans le secteur de Laval, toi. Mais c'est extrêmement dramatique, ce genre d'événement-là. Un civil qui a été tué alors qu'il n'y avait rien à voir dans le conflit. Une policière qui a été blessée gravement et qui a tué un civil qui ne s'attendait probablement pas à ce type de journée-là après seulement 15 mois en fonction au service de police de Montréal. Le policier qui a perdu la vie, toutes les gens qui ont été impliqués autour. C'est une triste tragédie qui est arrivée hier, donc mes sympathies à tout le monde qui est touché. Puis salutations aux policiers et aux familles des policiers qui ne doivent pas passer un beau moment ces temps-ci.
Non, effectivement. Mes sympathies, effectivement, tout le monde qui est d'une quelconque manière là, impacté par cette tragédie-là, mais surtout, effectivement, le policier Mohamed Lamine Ben Redouane, ainsi que lui, je pense que ça faisait 5 ans qu'il est dans les forces policières. C'est toujours aussi particulier parce que, bon, il a 34 ans, mais presque à même âge que moi. Fait qu'on dirait que plus ça. Quand on arrive à un certain stade dans la vie, on voit des gens de notre âge, puis on est comme, OK, c'est quand même c'est encore plus une tragédie qui nous frappe quand on a l'impression que ça, c'est la même génération. Ça aurait pu être un ami, ça aurait pu être. Puis c'était sûrement un frère, un fils, etc. Donc c'est très triste à tous les égards. Puis surtout, je pense que c'était le premier policier abattu dans ses fonctions à Montréal en près de 24 ans, si je ne me trompe pas. Donc ça donne un caractère encore plus particulier au drame qui s'est déroulé hier. Tout ce que j'ai à offrir, c'est des sympathies, contrairement à certaines personnalités que je ne nommerai pas, je ne ferai pas de récupération politique, comme certains aiment le faire avec les tragédies parfois. Je pense qu'il faut se garder une petite gêne, ou une grosse gêne dans ces conditions-là, puis rester solidaire, c'est le plus important.
Exact. Puis, pour ce qui est de la récupération, je sais pas, il y en a qui voient des opportunités des fois là où ils ne devraient pas voir d'opportunités. Puis oui, effectivement, on a vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'est un drôle de métier, le métier de policier, parce que quand tu y penses 30 secondes, tu te lèves le matin, tu ne sais jamais si tu vas revenir le soir. Si jamais il y a des tragédies, si jamais il y a des fusillades, le réflexe de la plupart des gens, qui nous entourent, puis on s'inclut là-dedans, notre réflexe, c'est d'essayer de s'éloigner de la fusillade. Bien, le policier ou la policière, son réflexe, ça doit être de se rapprocher le plus possible de la fusillade pour mettre fin à la menace. Ça prend des gens qui sont bâtis différemment. Puis j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là. Je comprends les gens qui sont très déçus quand ils ont affaire avec la police, parce que quand tu as affaire avec la police, c'est parce que ça va mal. Mais force est d'admettre que ces gens-là sont des êtres dont on a besoin. Puis merci beaucoup aux policiers et policières et leurs familles de veiller sur nous. All right. Avec la Fédération canadienne des contribuables, on surveille votre argent. La Fédération canadienne des contribuables, là, c'est un organisme qui existe depuis des années. Pour les gens qui t'entendent pour la première fois sur nos ondes, Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, c'est quoi exactement la Fédération?
Bien, on est une organisation non lucrative qui existe depuis bientôt, là, pas loin de 36 ans. En fait, plus de 36 ans. On a été créé dans les années 90 en réaction notamment à l'arrivée de la TPS à l'époque. Donc, ça nous ramène quand même pas mal en arrière. Notre mission en tant qu'organisation non lucrative est très claire. On veut moins d'impôts, moins de gaspillage gouvernemental, puis un gouvernement plus transparent, donc plus imputable. Donc, on est présent dans toutes les provinces. On a des directeurs, on a des bureaux qui sont également à Ottawa et à Regina. Puis on espère en ouvrir un troisième prochainement. Donc, c'est ça, on est présent sur toutes les autant de plateformes que de médias que possible, indépendants ou les médias traditionnels. On est aussi présent parfois sur des comités parlementaires. On dépose plusieurs rapports par année sur l'état de la dette, les taxes sur l'essence, les changements fiscaux qui vous attendent dans la prochaine année, ou des rapports prébudgétaires pour essayer d'avoir un peu d'influence sur les décisions qui vont être prises par les ministres des Finances dans le cadre de leur budget. Des fois, ça fonctionne. On a eu quand même quelques victoires au Québec au cours des dernières années. On peut quand même célébrer le fait qu'on a eu une baisse d'impôts en 2023, puis on a fait quand même beaucoup de travail pour que ça arrive. Il y a eu la fin du prix minimum sur l'essence. Il y a eu le plafonnement des tarifs d'Hydro-Québec ou le remboursement des trop-perçus. Donc, au courant des 10 dernières années d'implication, parce que malheureusement puis heureusement, c'est un beau puis un mauvais problème, c'est qu'on est très présent dans le reste du Canada. Ça fait à peu près 10 ans qu'on est plus implanté au Québec puis qu'il y a vraiment une bilinguisation qui s'installe dans l'organisation. Donc, notre feuille de route est plus courte au Québec. Au Canada, de manière plus large, on a quand même aussi tout un paquet d'accomplissements. Puis c'est toujours pour le contribuable, la veuve et l'orphelin. Donc, on est vraiment là pour défendre ceux qui sont parfois sans voix et qui sont généralement un peu trop pris pour acquis durant les périodes électorales. Donc, on essaie de faire notre possible pour vous défendre tout autant que possible.
Les politiciens vous perçoivent comment au fédéral et au provincial, la Fédération canadienne des contribuables? Qu'est-ce qu'ils pensent de vous?
Ça dépend. Il y a des policiers qui nous aiment parce qu'on arrive quand même à amener de l'information, puis quand même beaucoup qui sont privilégiés, assez exclusifs. On se rappelle, par exemple, récemment, on a appris que Mark Carney avait dépensé pas loin de 194 000 $ là, en 3 voyages, en repas, en avion. C'est de l'information exclusive qu'on a sortie, puis finalement, ça a fait pas mal jaser à la Chambre des communes durant la période des questions. Donc, ça dépend. Il y a des politiciens qui nous aiment parce que l'information leur permet de justement avoir des débats en Chambre, puis aussi de pousser peut-être parfois pour des réformes. Puis il y a des politiciens qu'on expose qui, eux, clairement, qui nous aiment un peu moins ou qu'on questionne un peu trop, puis parfois ont tendance à nous bloquer sur les réseaux sociaux quand ils sont pas trop à l'aise d'y répondre. Je ne le nommerai pas, mais en fait, je vais le nommer. Il y a un certain premier ministre, François Legault, qui n'a pas aimé ma question sur les TGV récemment. Donc, j'imagine que je ne suis pas dans son cœur trop. Mais bon, il en reste qu'à la fin, il y en a qui nous apprécient, d'autres moins, mais on est là plus pour confronter la machine que les individus eux-mêmes. Un exemple que je peux donner, c'est qu'on s'oppose très fermement aux augmentations de salaire des députés, surtout à la Chambre des communes. À l'Assemblée nationale également, on a fait beaucoup de pression là-dessus. Mais à la Chambre des communes, encore plus, au point où un des 343 députés, Mike Dawson, qui a décidé de refuser son augmentation de salaire. Puis ça, ce qu'on sait, c'est que dans les caucus, surtout conservateurs, parce que c'est un conservateur, Mike Dawson, du Nouveau-Brunswick, ça brasser pas mal. Il y a du monde qui disait « Voyons donc, si tu acceptes de baisser ton salaire, ça envoie un mauvais signal, ça veut dire que les autres, on doit s'engager à le faire. » Mais nous, c'est ce qu'on veut. Donc, il y a des policiers qui sont pas contents des fois que certains autres apprécient prennent au sérieux la pression qui vient des contribuables en leur disant « Écoutez, là, vous avez des déficits après déficits, la dette a doublé, vous n'avez aucun plan pour le retour à l'équilibre budgétaire, puis on parle de ça pour le gouvernement, mais ça s'adresse aussi aux partis de l'opposition qui espèrent se retrouver dans cette position-là. » Et on leur dit, écoutez, tant que vous n'aurez pas ramené l'équilibre budgétaire, vous n'avez pas le droit d'une augmentation de salaire. Puis il y a des politiciens qui ont fini par comprendre qu'à un moment donné, quand tu fais plus de 200 000 $ par année en tant que backbencher, puis que tu fasses 3 à 4 fois le salaire de tes constituants en moyenne, augmenter ton salaire une énième fois, c'est peut-être pas très avisé ni un bon signal envoyé à la population. Donc, c'est ça. Ça dépend des politiciens. Il y en a qui nous aiment, d'autres beaucoup moins.
All right. Je ne sais pas si tu as vu l'article de Julien McEvoy dans le Journal de Montréal, Journal de Québec de ce matin. On parle de l'inflation qui a bondi autour de 3,2% au Canada en mai. C'est son plus haut niveau en un an. Puis le Québec fait pire à 3,6%. Et ça, c'est ce qu'indique un bilan publié hier par Statistique Canada. On dit que le Québec reste toutefois loin des provinces les plus touchées. La Nouvelle-Écosse subit les pires hausses à 5,2%, suivi du Nouveau-Brunswick à 4,7%. Et l'Ontario s'en tire quand même bien à 2,6%. Qu'est-ce que ça représente, ça? Tu sais, quand on parle là, de l'inflation 3,2, qu'est-ce que ça représente concrètement pour le contribuable?
Bien, ce que ça représente, c'est que c'est une perte du pouvoir d'achat. C'est ce que c'est. L'inflation est possiblement la forme de taxation la plus insidieuse parce qu'elle ne découle pas d'une décision politique directe. Ça découle de plusieurs éléments, plusieurs facteurs, notamment la masse monétaire en circulation, donc la quantité de monnaie en circulation versus sa demande, versus l'utilisation qu'on en fait. Il faut rappeler aussi que les déficits gouvernementaux, qu'ils soient provinciaux ou fédéraux, sont alimentés par les déficits. Donc, parce que les déficits, on ne le répétera jamais assez, c'est de l'argent qu'on n'a pas. C'est de l'argent qu'on dépense et qu'on n'a pas, qu'on emprunte. Et donc, on ajoute de manière supplémentaire dans l'économie à travers des dépenses ciblées ou soutenues dans différents programmes. Donc, il y a ça à considérer. Il y a aussi les taxes et les impôts. Il faut se rappeler que dans dans le dernier budget du gouvernement du Québec en mars dernier, noir sur blanc, le ministre Éric Girard reconnaissait que si l'inflation est un peu plus élevée au Québec, du moins on est en mars, il n'y avait pas encore les contre-coûts liés à la guerre en Iran, puis ce que ça a eu comme impact de manière automatique. On commençait à voir les impacts sur les stations de service, du moins les prix dans les stations de service, mais sur le coup, une des raisons de l'inflation qui était plus importante au Québec, c'était à cause de la taxe carbone, parce qu'on était les seuls à maintenir encore une tarification du carbone. Donc oui, ça a un impact sur l'inflation. Qu'on se dise, si le Québec fait moins bonne figure que la moyenne canadienne, c'est en partie parce qu'on maintient des mécanismes comme ça, pour ne nommer que lui, en passant. Puis on va se dire récemment, ce qui peut ne pas vraiment être avantageux pour qui que ce soit, c'est la décision de Mark Carney d'imposer des tarifs sur les légumes de conserve qui sont importés, qui ne se sont pas produits au Canada, dans le but, dans une optique de mesures protectionnistes pour les producteurs canadiens. Sauf que à la fin de la journée, monsieur, madame, tout le monde qui s'en va à l'épicerie, oui, il va faire des choix souvent en se basant sur est-ce que c'est local, est-ce qu'il y a des OGM, ils vont regarder qu'est-ce qui constitue le produit. Mais quand tu n'as pas le choix, quand tu es à corde au cou, parce que, je veux dire, tu vis d'un chèque de paye à un autre, puis tu ne peux pas te permettre, ne serait-ce que un mauvais tournant, un accident, peu importe, parce que sinon tu te retrouves à t'endetter. Ben, quand tu fais ton épicerie, tu ne vas pas nécessairement regarder si la canne de conserve vient de telle place ou de telle place. Tu vas dire, OK, ça a l'air bon, puis je peux me le permettre. C'est pas mal les deux calculs qui sont faits par bien du monde. Puis là, on est rendu à augmenter des tarifs sur ces produits-là. Donc, clairement que ce n'est pas avisé, puis ça va aussi avoir un impact sur l'inflation à moyen long terme.
Il y a David Alexandre Brassard que j'ai reçu il y a de ça quelques semaines, qui est l'économiste en chef chez CPA Canada, qui mentionne que toute part du pétrole, la guerre en Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz qui ont fait exploser le brut en mai, et le prix de l'essence ici chez nous qui a grimpé de 33% à la grandeur du Canada. Ce qu'il mentionne, c'est que retirer l'essence du panier et l'inflation tombe à peu près à 2,2%. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Je ne suis pas en désaccord, dans le sens que c'est sûr que le prix de l'essence a un impact non négligeable sur l'ensemble de l'économie, sur toutes les chaînes d'approvisionnement, sur les manufactures, sur le secteur agricole, sur les automobilistes. Bref, c'est une inflation qui est directe. Puis on s'entend que le prix de l'essence il a quand même jumpé pas à peu près. Alors, on y va à un calcul rapide, il a augmenté de pas loin de 50% en quelques semaines à peine.
Ouais.
Donc, c'est sûr que ça a un impact plus large sur l'inflation ressentie. Mais, comme je dis, l'inflation, c'est lié à une multitude de facteurs. C'est le facteur que j'avais effectivement omis parce que c'est le plus flagrant. Mais il y a d'autres facteurs qui sont un peu plus insidieux, comme je dis, les fameuses dépenses gouvernementales, les taxes et impôts ont quand même aussi, à quelque part, un impact, ne serait-ce qu'un peu inflationniste. Mais des situations comme ça qu'on a vues au cours des derniers mois, qu'on espère qu'il va se régler, parce que bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer en Iran, ne serait-ce que dans les prochains jours ni les prochaines semaines. Mais il n'en reste que c'est le genre de situation qui est évitable. Puis on se rappelle aussi qu'en 2022, on a eu une situation, c'est une situation évitable, pardon. Malheureusement, c'est une situation sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle, c'est plutôt ça que je voulais dire. Mais on a eu la même situation en 2022 avec l'Ukraine. Quand la guerre a commencé, le prix de l'essence a augmenté, l'inflation a également augmenté du même coup. Mais on avait encore aussi une période inflationniste au Canada qui n'était pas juste liée à ça. Alors, on se rappelle qu'en 2022, l'inflation était élevée. Ce n'était pas juste à cause du prix de l'essence. Il y avait aussi la masse monétaire qui avait grandement augmenté durant la pandémie à cause des différents programmes du gouvernement puis par le ralentissement de l'économie. Ça a mené à une inflation. la pire des 40 dernières années. Donc, c'est très variable, mais on s'entend qu'à la fin de la journée, c'est monsieur, madame, tout le monde qui souffre de cette inflation-là parce que c'est notre pouvoir d'achat qui est réduit. C'est la valeur de notre dollar dans nos poches qui est carrément perdue.
Ouais, tu vois, on dit que là où ça fait mal, c'est vraiment l'épicerie. Les aliments qui ont été achetés en magasin ont dépassé l'inflation globale pour un 16e mois consécutif. On parle d'une hausse de 4,3 % sur un an. Les légumes frais explosent de 9 % dont les tomates qui bondissent, elles, de 45,2 %, suivi de la laitue, le brocoli, le chou-fleur, même les aliments transformés augmentent. T'as-tu vu passer ça, toi, avec les libéraux? Puis il va falloir qu'on me l'explique, celle-là, là. On va imposer des droits de douane temporaires de 10 % sur des légumes en conserve qui ont été importés du côté des États-Unis. C'est quand même assez hallucinant, ça. Donc, États-Unis, Mexique, Israël, Chili, paf! Un 10 % ces boîtes de conserve, alors que les Canadiens ont de la misère à se nourrir présentement. Il y a des gens qui mettent ça sur la carte de crédit. Mais quelle stratégie douteuse de la part du ministère des Finances, là?
Oui, ben c'est douteux. Puis encore, comme je le disais tantôt, c'est vraiment une mesure protectionniste. Encore une fois, c'est aussi au nom de vouloir protéger notre industrie, notre secteur agricole, nos producteurs locaux, qu'on met de l'avant des tarifs sur d'autres pays. Mais à la fin de la journée, ces tarifs-là sont véritablement refilés aux consommateurs. Qu'on s'entende là-dessus, les pays qui nous envoient ces produits-là vont simplement intégrer le tarif dans le prix, comme c'est arrivé au début des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada. On se rappelle, là, on avait cette idée qu'on allait faire des contre-tarifs pour répliquer aux Américains. Qui a payé les contre-tarifs? Ben, c'est nous. C'est le consommateur qui passait dans les épiceries et qui achetait son café ou son jus d'orange, puis que ben, malheureusement ou heureusement, peu importe, ça venait des États-Unis. Et finalement, la facture était assumée par le consommateur, tout simplement. Puis là, ben, on disait aux gens, ben, si vous ne voulez pas payer les tarifs, tournez-vous vers d'autres produits. Mais les produits n'étaient pas nécessairement aussi accessibles, pour ne pas dire ici aussi abordables. Donc, encore une fois, c'est une approche qui est extrêmement contre-productive, qui va faire monter le coût du panier d'épicerie. Puis on sait, j'ai à rappeler, là, puis ça, je me base sur le rapport alimentaire qui est produit par l'Université d'Alousie à chaque année. Alors, on apprenait dans le dernier rapport, en fait, qui a été publié, je pense, en décembre 2025, que le coût du panier d'épicerie cette année va augmenter d'environ 1 000 $ par rapport à l'année dernière pour combler les mêmes besoins. Donc, c'est énorme. On va dépenser 1 000 $ de plus pour manger autant que l'année dernière là, dans les foyers familiaux au Québec. Donc, de dire, OK, puis on va en plus mettre un 10% sur des conserves importées parce que, ben, au nom de protéger notre industrie locale, c'est vraiment tout sauf productif.
Mais supposons que tu veux des légumes en conserve qui viennent des États-Unis. Il faut que les Québécois comprennent, parce que des fois, le message ne passe pas tout le temps. Là. Quand c'est le fédéral qui impose ça, c'est pas les autres pays là, qui vont payer. C'est le Canadien qui va devoir payer le 10 % supplémentaire s'il veut un produit qui vient des États-Unis. C'est bien ça. Puis qu'est-ce que le gouvernement Carney fait avec ce cash-là qu'il ramasse?
Il va le dilapider, honnêtement. Ça va finir dans le déficit, honnêtement. C'est un montant qui ne va pas rééquilibrer les finances publiques. Je me doute que cet argent-là va être sûrement, comment dire, utilisé puis être investi justement au sein, directement au sein des agriculteurs ou du secteur agricole. Donc, c'est souvent ça qui est fait. On se rappelle la fameuse taxe Netflix. Ils voulaient l'augmenter il n'y a pas si longtemps. Le CRTC voulait faire passer de 5 à 15 % la taxe sur les services de streaming. Ben, le but de l'augmenter, cette taxe-là, c'est d'aller chercher des revenus supplémentaires qu'elle a mis dans un fonds pour ensuite supporter le secteur des arts et de la culture au Canada. Donc, essentiellement, c'est une taxe ou un tarif qu'on va chercher pour ensuite le redistribuer. Donc, ce n'est pas de l'argent qui va permettre de vraiment d'effacer le déficit. On s'entend là-dessus. Puis, de toute manière, avec un déficit qui pourrait atteindre jusqu'à 72 milliards cette année, en fonction des derniers rapports du directeur parlementaire du budget à Ottawa, entendons-nous, c'est pas ce tarif-là qui va changer grand-chose. Fait que c'est vraiment contre-productif. Puis, on avait beaucoup de gens qui disaient, regardez, les Américains avec leurs tarifs, quand Trump il dit qu'il veut mettre des tarifs sur tout le monde, à la fin de la journée, c'est les consommateurs américains qui les payent, oui. C'est bien stupide. T'sais, tout le monde le reconnaissait, tout le monde comprenait c'était stupide comme mesure. Mais nous, quand on le fait, il n'y a personne qui semble s'offusquer du fait que c'est les Canadiens qui vont payer finalement. Donc, c'est très mal avisé. Surtout dans un contexte où il faut dire qu'il y a quand même pas loin d'une famille sur 10 au Canada qui font la file devant les banques alimentaires à chaque mois. Là. Attendez-vous à ce que ce chiffre-là augmente peut-être là, avec le temps, à cause de ce genre de mesures.
Certains diront la misère des riches, d'autres diront qu'on a besoin de voyager. Augmentation moyenne de 7,4% pour les billets d'avion en un an. Juste en avril, là, les mêmes tarifs avaient reculé de 1,7%. Et quand il y a eu un retournement, les voyages qui étaient organisés vers la fin avril avaient bondi de 17% d'un mois à l'autre, donc en mai, après une chute de 11% en avril. Il y a les loyers aussi qui sont touchés. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires. Les intérêts hypothécaires qui reculent pour un 33e mois consécutif et le coût de remplacement par le propriétaire diminue depuis 13 mois, donc moins 2,5%. Et mauvaise nouvelle pour les locataires, les loyers ont tout de même grimpé de 3,5% en un an. C'est la hausse la plus faible depuis janvier 2022, mais dans un marché qui est déjà tendu, ça représente des centaines de dollars de plus par année. Donc, on peut lire ça sous la plume de Julien McEvoy dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Sinon, vous planchez sur quoi ces temps-ci, la Fédération canadienne des contribuables?
Je traverse présentement le hangover du lendemain de la fin des travaux parlementaires à Québec. C'est comme, c'est un peu bizarre, ça a pris fin il y a 2 semaines, puis là, j'étais encore un peu comme ébranlé par cette semaine qui était assez ridicule, là, parce que moi, je suis pas un parlementaire, mais je suis un peu les travaux parlementaires quand même, ça fait partie du travail, puis surtout, j'interviens en fonction de ce qui se passe beaucoup à l'Assemblée nationale, même que j'y étais dans la dernière semaine pour déposer une pétition là, sur la taxe carbone qui a été signée par plus de 52 000 personnes. On a été la déposer sur place. J'ai fait une conférence de presse en compagnie de Maïté Blanchette-Vézina et Éric Duhaime, qui représente quand même la seule formation politique sur les 125 députés, bientôt 127 députés. On espère que peut-être qu'il y en aura plus aux prochaines élections qui vont être d'accord avec notre position, peu importe le parti. Mais c'est, pour l'instant, il y a juste les conservateurs à l'Assemblée nationale qui sont d'accord avec le fait que la taxe carbone au Québec, on doit l'abolir. Ouais.
On en a déjà parlé, toi et moi, puis tu avais bien repris Bernard Drainville. J'avais reçu Bernard Drainville en entrevue dans le show du matin et j'avais dit à Bernard Drainville, la maudite bourse du carbone, pourquoi on n'abolit pas ça? Et là, lui me disait qu'en raison des ententes qu'on avait avec les entreprises qui participaient à cette bourse carbone-là, on aurait des milliards et des milliards et des milliards à rembourser à ces entreprises-là. Et toi, t'as dit, Yann, Bernard Drainville se base pas sur les bonnes choses, là. Il pourrait l'abolir sans aucun problème. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des contribuables, t'avais l'information comme quoi on pouvait l'abolir sans problème, puis que lui, en tant que futur chef de la CAQ, parce qu'il était en élection, n'était pas au courant qu'on pouvait l'abolir?
C'est une bonne question, mais c'est parce que les élus eux-mêmes, ils ont la difficulté à comprendre le fonctionnement d'une taxe ou plutôt d'un mécanisme qu'ils ont mis Drainville n'était pas au pouvoir quand c'est né. Quoique, je pense que c'est entré en vigueur en 2013 ou 2014. Bref, c'était soit le PQ ou les libéraux, mais bref, si Drainville était au gouvernement, c'était pas lui qui était ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement qui prend tout le crédit sur la création de cette bourse du carbone, c'est surtout Yves-François Blanchette, quand il était ministre de l'Environnement au PQ. Donc, mais il n'en reste que cette information-là, selon laquelle, finalement, il n'y aurait pas de poursuite concluante si jamais on mettait fin à la bourse du carbone. Donc, les entreprises, est-ce qu'elles pourraient poursuivre le gouvernement du Québec? Oui, elles peuvent. Est-ce qu'elles vont gagner? Non. Puis ça, on le sait parce que Paul Journet de La Presse avait fait quand même beaucoup de travail là-dessus, puis il s'était justement intéressé aux clauses légales entourant la participation à la bourse du carbone. Puis on apprenait finalement que, en réalité, quand la bourse du carbone était abolie en Ontario, il y a eu un manque à gagner, qu'on dit, de quelques milliards. Mais ce manque à gagner-là, c'est de l'argent que le gouvernement n'est pas allé chercher finalement parce que la bourse a été abolie. Du moins, on se dispose depuis tantôt, mais vous comprenez que ça veut juste dire taxe à la fin de la journée.
Ouais.
Et aussi, d'un autre côté, il n'y a rien qui oblige le gouvernement à bail-out des entreprises à ce niveau-là. C'est comme dire, l'année prochaine, on va abolir la TVQ. On abolit la TVQ dès maintenant. Puis là, les gens disent, vu qu'on l'a abolie le 23 juin, est-ce qu'on peut se faire rembourser tout ce qu'on a payé depuis le 1er janvier en TVQ? Non. À la fin de la journée, vous avez une exemption qui entre en vigueur à partir de maintenant. Vous aurez pu à dépenser de l'argent pour compenser ou pour payer pour la TVQ. C'est la même chose pour la bourse du carbone. Si tu la retires demain matin, les entreprises qui sont soumises à ce mécanisme-là n'auront plus besoin d'acheter des droits d'émission. Maintenant, les droits d'émission qu'elles ont déjà acquis, elles pourraient les revendre à la limite à perte. À la limite, ça serait à regarder comment ça serait fait. parce que, veux, veux pas, vu que ça fait longtemps qu'on est dans, ce, dans cette bourse-là, en sortir après 12 ans, ça se peut qu'il y ait des transactions qui soient nécessaires pour que certains liquident leur part de droits d'émission. Mais à la fin de la journée, elles sont tous gagnantes parce qu'elles n'auront plus besoin de payer cette taxe-là ou ces, ces droits d'émission-là à l'avenir. Donc, à la fin, je ne comprends pas pourquoi est-ce que M. Drainville n'avait pas pensé à ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a un manque de courage politique flagrant de la part de la CAQ là-dessus, alors que c'est un enjeu qui pourrait, honnêtement, là, je veux dire, mettons les choses au clair. Moi, je veux juste que les politiques fassent leur chemin, peu importe le parti qui les porte. Si la CAQ veut avoir des chances de sauver les meubles au courant des prochaines élections, puis aller chercher quand même plus que, qu'une poignée de sièges pour dire qu'ils ont survécu, moi, je leur suggère de peut-être écouter l'électorat là-dessus puis d'abolir la taxe carbone, qu'on sait que ça pourrait se faire à coût nul, puisque les revenus de la taxe carbone, ça s'en va dans un fonds vert qui ensuite distribue cet argent-là sous forme de programme de subvention. Puis là où est-ce que peut-être que Drainville a raison sur le fond, c'est que vu qu'il y a un paquet de programmes de subvention reliés au fonds vert qui distribue un paquet d'entreprises, vous comprenez qu'il y a quand même tout un armada de lobbyistes qui ne veulent pas que le fonds de que le fonds d'électrification des changements climatiques ou le fonds vert disparaissent parce qu'ils en dépendent. Ils reçoivent, je veux dire, juste l'année dernière, le gouvernement du Québec est allé chercher 1,3 milliard de dollars là-dedans, puis ça s'est distribué ensuite à travers des programmes de subvention dont plusieurs entreprises profitent. C'est elles qui vont chialer. C'est ceux, c'est les entreprises subventionnées qui vont chialer si elles ne reçoivent plus leur compensation via le fonds vert. Et honnêtement, ce que j'ai à dire, c'est ben, je m'en fous comme l'an 40. Honnêtement, ces entreprises-là ne reçoivent plus leurs subventions. On est contre les subventions aux entreprises, peu importe si ça vient d'un fonds vert alimenté par une taxe carbone ou un fonds de développement économique qui est un genre de fonds discrétionnaire du ministre de l'Économie. On s'en fout. C'est l'argent des contribuables, ça doit rester dans leur poche. Puis les entreprises, ben, si elles ne sont pas capables de tirer leur épingle du jeu sans l'argent des autres, ben, qu'est-ce qu'elles font sur le marché? Tout simplement. Donc, je suis désolé, mais effectivement, M. Drainville, il a un peu erré. C'est que ça arrive à n'importe quel politicien, mais ça ne fait que démontrer un manque flagrant de courage politique.
J'adore. Puis oui, les lobbyistes sont beaucoup trop présents dans l'entourage du gouvernement. Et les groupes de pression aussi laissent craindre le pire pour ce qui est du gouvernement, malgré que les gens du Parti vert sont-ils si dangereux que ça? Je sais pas. Je me pose la question parfois. Christine Fréchette, qui est dans un genre de cruising bar pendant 100 jours où elle doit plaire à chaque contribuable qui est en mesure de pouvoir voter aux prochaines élections. À chaque jour, elle annonce des trucs qui peuvent être pertinents pour le contribuable. Y a-t-il des mesures que Christine Fréchette a mises en place dans les dernières semaines qui plaisent à la Fédération canadienne des contribuables? Puis si oui, lesquelles? Puis est-ce que pourrait aller encore plus loin, mis à part la fameuse bourse du carbone et son abolition?
Oui, ben c'est sûr que quand même, dans l'ensemble, puis on a fait partie des organisations qui ont salué les quelques gestes qui ont été posés par Mme Fréchette, notamment le remboursement de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Donc, on salue l'initiative pour aider justement l'accès à la propriété. Certains vont dire que c'est pas suffisant, mais bon, ça reste un pas dans la bonne direction quand même. Donc, un politicien qui prend une bonne décision, si on se met à cracher dessus parce qu'on trouve que c'est pas assez, ben ça se peut qu'il recule. Donc, on veut pas qu'elle recule là-dessus, donc on la laisse aller. L'abolition de la TVQ sur les produits d'épicerie ou sur quelques produits d'épicerie, on s'entend que c'est si on redistribue cette économie-là sur un an pour une famille de quatre, ça présente environ une économie de 96 cents par semaine. On s'entend que c'est pas tout à fait ce qui change le monde, sauf que, encore une fois, ça reste que d'un, on parle d'abolition d'une taxe. Nous, à la Fédération, on ne va jamais s'opposer à l'abolition d'une taxe, peu importe le montant, peu importe le moment. Mais il n'en reste que, comme on disait tantôt, le prix du panier alimentaire augmente de pas loin de 1 000 cette année par rapport à l'année dernière pour combler les mêmes besoins. Donc, 96 cents d'économie par semaine, ce n'est pas tout à fait ce qui va rendre la nourriture plus abordable, mais au moins, c'est un peu plus d'argent qu'on garde dans nos poches, tout simplement. Je peux aussi saluer le geste qui a été fait parce qu'il y a quand même, on parle de la taxe carbone, elle rembourse la taxe carbone aux agriculteurs. Ça, c'est une mesure qui a été comme plus ou moins, elle a été médiatisée, mais ce n'est pas la mesure qui a comme été la plus soulignée. Donc, on parle de 41 millions de dollars cette année qui sont remboursés aux agriculteurs, 46 millions de dollars l'année prochaine. On ne sait pas ce qui s'en vient pour 2028, donc on espère que ça va être maintenu, peu importe le gouvernement cet automne, qui sera élu. Mais une chose est sûre, c'est une reconnaissance de la part du gouvernement que la taxe carbone a un impact sur la production, sur le coût de la production alimentaire, et donc de la rembourser aux agriculteurs. C'est comme de vouloir mettre fin à une injustice, parce que c'était les seuls à payer cette taxe-là en dehors des agriculteurs californiens, là. Donc, partout de toute l'Amérique du Nord. Donc, il y a comme un règlement qui se fait à ce niveau-là, puis nous, on salue l'initiative. Mais encore une fois, comme c'est le cas, par exemple, pour le fameux remboursement des frais d'immatriculation, donc 50 $ de réduction qui entre en vigueur à partir de septembre prochain, au lieu de s'attaquer à la source du problème, parce que pourquoi est-ce qu'elle fait un remboursement sur les frais d'immatriculation? C'est parce qu'elle ne voulait pas baisser les taxes sur l'essence. Alors que c'était, ça aurait été bien avisé de le faire, surtout dans le contexte où est-ce qu'on a vu les prix de l'essence augmenter de 50%, donc de 40 voire 50 cents selon les différentes régions du Québec à cause du conflit en Iran. Donc, d'en faire un peu plus, d'aller directement aux sources, ça a été beaucoup plus avisé qu'un remboursement qui arrive un peu trop tard. Puis, même chose pour le remboursement de la taxe carbone aux agriculteurs. Encore une fois, ça aurait pu être fait simplement en abolissant la taxe carbone pour tout le monde. Ça aurait eu un impact non négligeable pour le portefeuille de plusieurs Québécois, mais aussi sur l'inflation alimentaire, sur l'inflation énergétique. Mais encore là, on préfère faire des remboursements plutôt que d'éliminer des taxes à la source. Donc, c'est pour ça que c'est un peu mitigé. Mais il en reste que dans l'ensemble, Mme Fréchette a vraiment, en quelques semaines à peine, tiré son épingle du jeu pour démontrer qu'elle avait un peu plus à cœur le portefeuille des contribuables que son prédécesseur. Respectueusement, François Legault, j'ai un peu moins de sympathie depuis qu'il m'a bloqué sur Twitter. Mais il en reste que je trouve que Mme Fréchette, elle a essayé de faire des gestes. J'espère qu'elle en fera d'autres. Et j'espère qu'il y aura une surenchère de la part des autres partis politiques d'ici cet automne pour justement faire une offre intéressante aux contribuables, puis qui sera pas juste des promesses en l'air, mais des promesses livrées également.
Bon, tu as mentionné qu'elle remboursait là, une partie de la bourse du carbone aux agriculteurs, puis ça aurait été bien qu'elle le fasse intégralement pour tous les contribuables, enlever la fameuse bourse du carbone sur chaque litre d'essence, ça aurait été intéressant, mais par sa façon de faire, j'ai l'impression qu'elle augmente un peu la bureaucratie, parce que là, chaque agriculteur va devoir demander eux-mêmes leur part du gâteau, ça va devoir être traité par un fonctionnaire qui va décider à savoir si oui ou non ça va être remboursé, c'est ce que je comprends. Fait qu'elle augmente encore une fois la job des fonctionnaires.
Ben, en fait, ça, jusqu'à maintenant, elle semblait laisser croire que ça devrait se faire de manière assez rapide et assez simple, en fait. Donc, il n'y aurait pas de paperasse, de bureaucratie supplémentaire. Donc, on prend pour acquis que, essentiellement, cette mesure-là ne devrait pas créer davantage de bureaucratie. Ceci étant dit, son prédécesseur, donc François Legault, avait laissé planer la possibilité de mettre en place un genre de système de remise carbone, parce que on faut le rappeler aussi, les Québécois, bon, on paye une taxe carbone depuis 2014 à travers le prix de l'essence notamment, mais on n'a pas eu le droit, comme les autres Canadiens, à un système de remise. Parce que quand même, la taxe carbone fédérale était plus élevée, mais il y avait certaines familles qui recevaient des remboursements à tous les trimestres. Des trop perçus, entre guillemets, sur la taxe carbone. Donc, ça, c'est sûr et certain que mettre en place un programme de remise, c'est beaucoup plus coûteux et beaucoup plus laborieux d'un point de vue bureaucratique que simplement rembourser la taxe carbone aux différents agriculteurs qui font une demande de remboursement, tout simplement. J'imagine qu'ils vont envoyer leur facture à la fin de l'année, puis ils vont avoir un montant équivalent qui va être déposé dans leur compte ou quelque chose à peu près aussi simple. Mais il n'en reste que ça a été beaucoup plus avisé de l'éliminer pour tout le monde. Parce que si on reconnaît que la taxe carbone, c'est mauvais pour les agriculteurs, on devrait en dire autant également du camionneur ou du consommateur, du livreur, pour qui ça représente également un coût supplémentaire, dont l'allègement serait le bienvenu également.
Je t'ai envoyé un article de Geneviève Lajoie sur ton Messenger qui parle de Québec qui veut réduire la proportion de contrats publics qui est octroyé uniquement en fonction du plus bas prix, donc la fameuse politique du plus bas soumissionnaire, parce qu'on veut favoriser l'achat québécois. C'est France-Hélène Duranceau qui est chargée de ce dossier-là. On dit qu'elle s'apprête à fixer une nouvelle cible à l'appareil de l'État. Donc, 33% de la valeur totale des contrats publics ne devra plus suivre la fameuse règle du plus bas soumissionnaire conforme. À l'heure actuelle, c'est une proportion qui est autour de 28%. Et on dit que pour y arriver, il y a 800 employés de l'État, des centres des services scolaires au CIUS. On appelle plus CIUS, on appelle ça Santé Québec maintenant, madame, en passant par les ministères et les organismes publics qui devront suivre une formation dans les prochains mois. Et ce qu'on dit, c'est que l'objectif, c'est de casser la culture du plus bas soumissionnaire, devenu pratiquement une norme au sein de l'État et même un réflexe, même si plusieurs règles d'adjudication de contrats publics existent, comme la pondération qualité-prix, elles sont peu utilisées. Davantage de critères de qualité devront dorénavant être inclus dans les appels d'offres aux entreprises. On dit que, entre autres, les routes sont dans un piteux état et c'est la règle du plus bas soumissionnaire conforme qui s'applique dans la construction de nos routes ou dans l'asphaltage de nos routes. Et ça a souvent été montré du doigt par des experts pour expliquer le piteux état du réseau routier. Bon, ça devrait coûter cher, un peu plus cher pour le contribuable. Est-ce que concrètement, sur les routes, on va voir la différence entre des routes qui ont été faites par le plus bas soumissionnaire versus le soumissionnaire qui a peut-être donné un peu plus aux partis en place?
C'est une très bonne question parce que, tu sais, je le répète souvent, ça, on est les automobilistes les plus taxés pour chaque litre d'essence oui. en Amérique du Nord. Puis la raison pour laquelle on paye autant de taxes, c'est pour justement que cet argent-là serve à entretenir nos infrastructures routières. Comment ça se fait qu'on est ceux qui payons le plus de taxes par litre d'essence pendant les pays routes en Amérique du Nord? Ça se peut que ce soit lié en partie à la manière qu'on fait les appels d'offres pour justement entretenir ces routes-là.
Je te soumets quelque chose. Je soumets quelque chose au patron québécois de la Fédération canadienne des contribuables. Si jamais on avait augmenté les garanties, c'est-à-dire si c'est toi qui as le contrat, ben plutôt qu'être responsable de cette ligne-là pendant un an, tu vas devoir, ça sera inclus dans le prix, on s'en fout, être responsable de ce tronçon-là pendant 3 ans et on va passer dessus à chaque semaine pour savoir si c'est encore conforme la job. Et sinon, ben tu vas être obligé de payer un montant en pénalité parce que tu ne te seras pas occupé de ce tronçon-là ou encore l'asphaltage que tu as fait n'était pas conforme et ne durait pas assez longtemps. Augmenter les garanties, ça aurait rien coûté, en fait, là?
Oui, mais je veux dire, rendu là, si on demande de telles garanties, je veux dire, à l'entreprise qui est en charge du tronçon de route ou de la route comme telle qui a été construite ou qui a été réaménagée, il n'en reste que dans tous les cas, je pense qu'on parle quasiment un peu d'une privatisation de la route comme telle, ce à quoi je n'ai pas nécessairement un problème. Il y a eu cette idée récemment de mettre en place des péages sur les routes du Québec pour justement... Non, mais moi, j'ai toujours dit, ça, les péages, je les garde conditionnels à ce qu'on élimine les taxes sur l'essence puis les renouvellements des permis de conduire qu'on fait à chaque année. Mais finalement, que tu gardes beaucoup plus d'argent dans tes poches.
Ils ne seront jamais capables de faire ça. Fréchette est sortie la semaine dernière pour dire que là, elle est en train de se poser des questions à savoir s'il faut mettre plus de péage parce que là, il y a des gens qui commencent à avoir leur véhicule électrique puis là, eux autres, ils ne payent pas de taxes sur l'essence. Hey, c'est si simple pour ce qui est des véhicules électriques. Taxe kilométrique, merci, bonsoir. Puis on s'organise pour que ça arrive kiff-kiff avec ceux qui paient des taxes sur l'essence. Là ils vont nous mettre des barrages où on va devoir mettre de l'argent à chaque fois, puis on n'aura pas de résultats ben plus que ce qu'on a là présentement. Là. L'argent va se dilapider encore.
Oui, il n'y a aucune raison au monde pour laquelle on accepterait soit des payages soit une taxe supplémentaire, à moins que un paquet d'autres taxes soit éliminé du même coup pour que ce soit à coût nul. Mais là, le problème, c'est que tout le monde parle de payage, puis tout le monde parle de taxes kilométriques, mais personne parle d'éliminer les autres taxes qui sont déjà refilées aux automobilistes. Donc, une bonne partie du problème. Mais une autre chose aussi, tu sais, je reviens dans l'article dont on parlait il y a quelques instants sur les fameux les appels d'offres comme tels. Tu sais, il faut rappeler que Sonia Lebel, je pense que c'était dans sa dernière stratégie gouvernementale des marchés publics, avait dit que, ben, à partir de maintenant, la cible des contrats d'approvisionnement qui vont à des fournisseurs québécois, c'est 50 %. Donc, 50 % de tous les contrats d'approvisionnement québécois, c'est auprès d'entreprises québécoises. Sauf que quand on revient, par exemple, à l'état des routes québécoises, moi, je me dis que, puis là, je lance l'idée en l'air, je n'ai pas non plus la solution, je n'ai pas la baguette magique ultime, mais quand on regarde l'état des routes en Ontario, je veux dire, n'importe qui a déjà pris la route vers Ottawa ou vers Toronto, qui a conduit sur la 401, je veux dire, les yeux fermés, tu sais que tu n'es plus au Québec. Puis si tu vas à Calgary, je peux te dire que c'est la même chose. Puis si tu vas à Winnipeg aussi. Puis je veux dire, ce pas des villes parfaites qui ont leurs problèmes aussi au niveau de leurs infrastructures. Puis avant qu'on me dise, ah, mais c'est le gel des gels, Nick, attends une seconde. Ils ont aussi des hivers très difficiles à Calgary comme à Toronto. C'est à peu près le même climat qu'au Québec. Donc, comment ça se fait qu'ils ont malgré tout des bien plus belles routes que les nôtres? Ils ne sont pas parfaites. Mais comment ça se fait qu'ils ont mieux que nous? Donc, ça vaut la peine de se poser la question, est-ce qu'on pourrait peut-être ouvrir un peu plus le marché québécois à des entreprises canadiennes de d'autres provinces pour qu'elles viennent elles-mêmes peut-être offrir une meilleure qualité de service, une meilleure qualité d'entretien des routes comme celles qu'on voit dans les autres provinces? Parce que quand on se compare, ben, malheureusement, on a l'impression que le voisin, effectivement, le gazon est un peu plus vert que le nôtre. Puis ça ne fait aucun sens, comme je le dis, quand on considère toutes les sommes colossales qu'on met dans les infrastructures à chaque année, toutes les taxes qu'on paye sur chaque litre d'essence qui s'en vont finalement dans l'entretien des routes, mais qui nous donnent des routes qui, honnêtement, je veux dire, en tant que quelqu'un qui vote parfois à Montréal, je veux dire, aller sur Frontenac, aller sur Notre-Dame, aller sur Sherbrooke,
c'est une catastrophe,
ça fait aucun sens. Donc, au final, c'est ça. Il y a plusieurs solutions sur la table. Puis je pense que la révision des contrats et de la manière que fonctionnent les appels d'offres comme tel, ça vaut la peine de le mettre de l'avant, mais il va falloir être beaucoup plus ambitieux.
On passe la soirée en compagnie de Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables. On va faire une courte pause et on revient tout de suite. Restez là.
Marceau, le soir. Avant même le podcast, il y avait Marceau le soir. Du lundi au jeudi, 18h, Marceau parle avec du monde. Du monde quand même assez intéressant.
Oui, bien sûr.
Des politiciens, des acteurs de l'actualité, des experts, des avocats, des musiciens, des professionnels. Et même des inconnus qui ont quelque chose à dire. Mais avant tout, des humains, des émotions, des histoires. Marceau, le soir, à Boulevard.
3, 2, 1. Les capitales de Québec sont en action cette semaine au Stade Canac. Billets à partir de 14 $, bière en fût à 5 $ et nourriture à seulement 3 $. Faites vite, billets à capitaldequebec.com.
Les 27 et 28 juin prochains, le 28e gala des Belles Autos d'hier aura lieu à la polyvalente de l'Ancienne Lorette. Sous le thème « On sort en famille », plusieurs activités seront offertes à la halte familiale pour vos enfants. Assistez à une exposition de voitures anciennes et classiques avec au moins 25 ans d'âge. Les clubs Cadillac et Thunderbird de Québec seront là. Vous pourrez aussi profiter du marché aux puces, de kiosques commerciaux, d'animation, d'un service de navette gratuit et de la présence d'un bar et de food truck. Soyez là les 27 et 28 juin prochains au Gala des Belles Autos d'hier.
Au-delà des jeans Kepler, découvrez la signature Appalaches Distillerie. Lily Queen, rhum épicé, rétrofit, liqueur aux saveurs de notre enfance. Disponible à la SAQ en format bouteille, canette et sans alcool. Fier partenaire majeur du FEQ. Appalaches Distillerie, les saveurs d'ici.
Les nouveaux F-150 2026 vous attendent chez Levy Ford. Des dizaines de camions en stock et des offres qui frappent fort. Jusqu'à 7 000 $ de rabais ou du 0% d'intérêt sur certains modèles. Passez nous voir dès aujourd'hui. Lévis Ford, les forts de Lévis.
3 pour 1, partez!
Hey, il a dit 3 pour 1 ou 3 2 1? Ben 3 pour 1, c'est impossible!
Pour son 40e anniversaire, New Look offre bel et bien 3 pour 1 sur une sélection de lunettes.
Hey, tu vas où vite de même?
Jusqu'au 25 juillet 2026, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, l'opticienne.
Bon, OK, ça filme. Salut mes besties! On se fait un unboxing!
Je capote tellement les filles parce que Mercado.fm m'a envoyé plein d'affaires.
Nice! Un tapis de yoga! Ici, j'ai...
Oh my God! Un crédit voyage de 1 000 $ et un abonnement de 1 an dans un gym! OK, les filles, littéralement, je capote vraiment en ce moment. Merci, Mercado.
Mercado.fm. Des offres à vous faire littéralement capoter!
Plongez dans 888casino.net. Parce que c'est fait pour jouer. Cet été, pendant que vous profitez du soccer, découvrez une autre forme de divertissement sur 888casino.net. C'est tout simplement fait pour jouer.
Wouhou!
888casino.net. Fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit seulement. Veuillez jouer de façon responsable.
C'est parti pour la grande vente porte ouverte chez Escale VR Beaumont. Du 25 au 28 juin seulement, profitez de rabais allant jusqu'à 20 000 $ sur une vaste sélection de VR neufs et usagés. Roulotte, tente roulotte, fifth wheel, boîte campeur, roulotte pliante et motorisée. Sur place, toute la famille s'amuse avec les jeux gonflables. En plus, courez la chance de gagner un scooter électrique d'une valeur de 1 500 $. Financement disponible avec des taux à partir de 5,99% ou ne payez rien avant septembre 2026. Escale VR Beaumont, sortie 336 de l'autoroute 20.
Cet été, échangez les écrans contre les étoiles. Avec 100 destinations fixes, vivez la magie du cinéma géant en plein air partout au Québec. Derrière l'aventure, une famille passionnée de camping, de plein air et de voyage qui crée des soirées mémorables sous le ciel d'été. Besoin d'idées pour vos prochaines escapades? Découvrez leurs événements, leurs conseils et leurs collections dont la Dead Wild Club sur sansdestinationfixe.com. Camping et entreprises du Québec, quelques dates sont encore disponibles cet été. Réservez vite avant que la tournée ne reprenne la route.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérants.
Vous êtes électricien, détenez une licence C, la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis recrute. Le 15 juillet en soirée, venez découvrir le poste de technicien en raffinage, un rôle unique qui combine électricité et opération au cœur d'un environnement industriel dynamique. Rencontrez nos équipes, explorez nos installations et voyez concrètement à quoi pourrait ressembler votre avenir chez Valero. Une expérience en industrie est un atout, mais votre motivation à apprendre compte tout autant. Réservez votre place dès maintenant en écrivant à courrier@commercialvalero.com.
J'ai une question qui me travaille. Quoi faire en premier si je me sens harcelée par un collègue?
Consultez la personne désignée par votre employeur dans sa politique de prévention du harcèlement. Au besoin, visitez le site de la CNESST. Les normes du travail pour les questions qui vous travaillent. Un message de la CNESST.
Wow! La nouvelle Mitsubishi RVR ES 2026 peut être à vous pour seulement 79 $ par semaine chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi. Aucun comptant, 16 000 km par année avec un taux d'intérêt de 3,49% sur 60 mois. Profitez d'un VUS fiable, économique en essence et protégé par la célèbre garantie 10 ans Mitsubishi. Dépêchez-vous, cette offre est pour un temps limité seulement. Passez dès maintenant chez Québec Mitsubishi et Sainte-Foy Mitsubishi.
Déjà plus de 40 000 visiteurs ont vécu la magie d'Aura à l'église Saint-Roch. Cet été, plongez dans une expérience immersive spectaculaire alliant lumière et musique. De nouvelles représentations ont été ajoutées. Réservez vos billets dès maintenant au auraeglisesaintroch.com.
C'est autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Avec Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, on parle de trucs qui touchent notre portefeuille. Que penses-tu du fameux TGV qu'on veut bâtir de Toronto jusqu'à Québec, en passant par Montréal?
Ça fait cher l'éléphant blanc, c'est ce que j'ai à dire.
Mais est-ce que tu penses qu'on a besoin de ce genre d'équipement-là? Parce que moi, pour avoir été en Europe, les TGV, je trouve ça de toute beauté. Là, tu te déplaces à une vitesse qui est quand même assez correcte, puis tu changes régulièrement de pays quand tu es dans ce train-là, c'est le fun. Moi, je rêve d'un jour où on va parler d'un projet coast to coast au Canada, d'un océan à l'autre, puis ça va être une ligne TGV ou peut-être quelque chose d'autre qui va être encore plus rapide que ça un jour. Je rêve d'une liaison à Toronto où on va descendre vers les États-Unis, puis à partir des États-Unis, quand on va traverser les États-Unis, il va y avoir des embranchements un peu partout pour embarquer dans d'autres trains à cette vitesse-là. J'ai l'impression que c'est le futur. Je comprends que c'est une dépense qui est épouvantable, puis oui, ça va peut-être être un éléphant blanc, mais tu rêves pas de ça pour tes petits-enfants? Ben, faudrait que tu commences d'ailleurs à faire des enfants, mais pour tes petits-enfants, tu rêves pas de ça? Moi, je rêve de ça, de ce type d'équipement-là pour eux, mais j'aurais aimé que les grands-parents y pensent avant.
Oui, ben le pire, c'est écoute, avec raison, ça fait rêver. C'est sûr et certain que, ben, mettons de côté toutes les questions de coûts et tout ça, puis je veux dire, faut pas mettre ça de côté nécessairement parce que ça reste quand même extrêmement important, mais il n'en reste que oui, un TGV, je peux pas me dire que ça serait pas intéressant à voir comme infrastructure, surtout des infrastructures transnationales, où est-ce que tu pourrais passer, par exemple, du Canada aux États-Unis beaucoup plus rapidement, un TGV Québec-New York, par exemple, ou sinon, comme on en voit en Europe, des TGV qui passent de la France à l'Allemagne. Entendons-nous, c'est vrai que ça a amené un attrait supplémentaire à l'Europe là-dessus, et ça a brisé l'isolement des pays, puis ça a facilité le transport entre les pays aussi. Ceci étant dit, on parle d'un TGV qui pourrait coûter facilement entre 100 et 200 milliards de dollars quand on observe des projets de TGV similaires qu'on a vu dans le monde, là, comme celui qui est entre San Francisco et Los Angeles. C'est une distance de 800 km. C'est un TGV qui a été voté et autorisé la première fois en 2008. Le coût, c'était supposé être entre 33 et 45 milliards de dépassement de coût maximum. On est rendu à 136 milliards US pour la facture du TGV, puis il n'est même pas encore terminé. Donc, de penser que nous, au Québec, entre Québec et Toronto, qui est une distance encore plus longue, on arriverait ça à faire à moindre coût que ce qui est fait aux États-Unis, ce serait très surprenant. Surtout qu'on n'a pas tout à fait les mêmes conditions météorologiques ou climatiques pour justement la construction de cette infrastructure-là. Il y a aussi la question des expropriations, les droits de propriété qui sont à considérer. Parce qu'on va se dire, franchement, tout le monde veut un TGV jusqu'à ce que tu apprennes qu'il passe sur ton terrain. Puis quand il passe sur ton terrain et qu'il est exproprié, je peux te dire que tu ne veux plus le TGV. Puis c'est le cas de bien du monde, notamment, en tout cas, l'UPA a fait une levée de bouclier assez importante récemment. On a aussi dans le coin de Mirabel, les agriculteurs s'organisent. Moi, j'ai de la famille à Mirabel. Puis le mot se passe, là. Personne ne collabore avec Alto ou presque. C'est rendu que Alto, la société d'État en charge du TGV, doit débarquer sur place pour, avec des drones pour essayer de faire de l'observation puis voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire le pré-développement dans cette zone-là parce que les propriétaires ne veulent pas les laisser entrer sur leur terrain. Fait que, bref, il y a tout un branle-bas de combat qui s'organise. La réalité des villes versus le monde rural là-dessus, c'est deux mondes complètement différents par rapport à comment est-ce qu'on voit le TGV. Il y a des gens qui vont avoir une station dans leur ville, ils veulent le TGV. Mais les gens qui vont juste avoir la traque qui passe sur leur terrain, mais qui n'auront pas de station, ils ne veulent pas plus le TGV.
Ouais. Écoute, il y a un argument là, puis c'est un argument que je trouve intéressant pour ce qui est des agriculteurs. Parce que pour ce qui est des terres qui sont intéressantes pour les agriculteurs, c'est 95% du Canada qui n'est pas intéressant pour les agriculteurs. Et il y a un genre de 5% de la bande au sud du Canada qui est intéressante pour les agriculteurs. Et c'est exactement là où on veut installer le fameux TGV. J'y comprends de paniquer un peu, là, parce que le matériel agricole, là, c'est du matériel qui est quand même assez gros. C'est même géant parfois. Donc, tu ne peux pas passer par-dessus la traque de chemin de fer du TGV. Il va falloir passer en dessous. C'est des plans, là. C'est des plans épouvantables quand même, là.
Oui, absolument. Puis surtout, comme je reprends la ville de Mirabel, ils ont aussi connu leurs propres expropriations pour un autre éléphant blanc, là, que tu connais sous le nom de l'aéroport de Mirabel, ouais, qui aura coûté des centaines de millions, voire milliards, puis finalement qui n'existe plus aujourd'hui, ou du moins qui n'est plus du tout utilisé pour les vols commerciaux. Donc, il n'en reste que c'est une accumulation de tout ça. Puis aussi, il faut quand même rappeler qu'entre Québec et Toronto, il existe un réseau ferroviaire. Il existe déjà un service ferroviaire qui couvre cette région-là. C'est sûr qu'il n'est pas aussi rapide qu'un TGV parce que Montréal-Québec, tu le fais en 3 heures en train comme en voiture. C'est donc, tu n'économises presque aucun temps là-dessus. Mais il faut aussi dire que Via Rail, qui s'occupe justement du transport sur cette région-là, ils ne sont pas rentables. La réalité, c'est qu'il n'y a pas nécessairement une forte demande pour le transport interrégional en train. Il y en a, mais pas suffisant. Puis au point où est-ce que non seulement c'est pas rentable, mais les contribuables doivent payer. On a payé pas loin de 1,8 voire 2 milliards de dollars au cours des dernières années pour compenser pour les pertes de Via Rail. Donc, ça va être quoi pour le TGV d'Alto? Parce que il y a quelques temps, j'ai vu quand même plusieurs politiciens sortir sur la place publique puis soit dénoncer le projet, notamment le Bloc québécois le fait, surtout pour la mouture du projet puis comment est-ce que ça va de l'avant puis le manque d'études environnementales et tout. Mais le Parti québécois à Québec s'y oppose carrément. Bec et ongles, donc eux autres, ils veulent rien savoir. Même chose pour les conservateurs à Ottawa. Donc, c'est la première fois qu'on voit des souverainistes progressistes qui sont d'accord avec des conservateurs fédéralistes sur un enjeu comme ça. Un, c'est le coût. L'autre, effectivement, c'est davantage la manière que le financement va se faire. Mais dans tous les cas, il n'en reste que ce ne sera pas un projet de transport en commun. Contrairement à ce que disait Ruba Gazal il n'y a pas si longtemps en conférence de presse, elle faisait référence au TGV comme étant comme une infrastructure qui va faciliter le transport comme un genre de transport en commun. Mais la réalité, c'est que le coût de transport en TGV ne va pas être le même que celui en train, ni le même que celui en voiture ou en covoiturage. Ça va, pour justifier une infrastructure qui va coûter des dizaines et des dizaines de milliards comme ça, il va falloir que le prix du billet en vale la peine. Et par ça, je veux dire que ça se peut que ça coûte presque aussi cher que de prendre l'avion. En fait, la réalité, c'est que le principal compétiteur en Europe du TGV, c'est l'avion. Donc, ça se peut que ça amène une dynamique justement où est-ce que les gens vont hésiter à prendre l'avion ou le TGV pour sauver du temps. Mais finalement, ça va vouloir dire que le billet du TGV va être très coûteux ou sinon très subventionné, ce qui va faire en sorte que le TGV va être encore moins rentable et emmener moins de retombées économiques ou de revenus à l'État que ce qui serait espéré. Fait que dans tous les cas, nous, on demande quand même à ce que le gouvernement fasse preuve de vigilance puis surtout recule sur ce projet-là qui, au final, on n'a pas les moyens de le faire. Si on l'avait fait il y a 30 ans, t'sais, parce qu'il n'y a pas si longtemps, Joël Lightbound, député libéral dans le coin de Québec, a dit le Parti québécois, le Bloc, qui veut nous ramener 30 ans en arrière. Oui, mais il y a 30 ans en arrière, au Canada, on remboursait la dette. On équilibrait le budget. On faisait le ménage des finances publiques et dans la fonction publique. Je ne dis pas qu'on avait de l'argent pour tous les projets colossaux, mais on aurait probablement eu les moyens, puis on aurait eu peut-être la fenêtre d'opportunité au lendemain du référendum de faire un nation building project comme ça, de faire un TGV qui aurait eu peut-être de l'allure, puis qui aurait pu se faire à bon coup, puis qu'on avait les moyens de payer parce qu'on n'était pas en train de s'endetter. Mais là, on n'est pas à la même place. On vient de faire sauter la caisse, la dette a doublé, c'est rendu à nous coûter 60 milliards de dollars par année en intérêt sur la dette. On n'a pas les moyens pour un éléphant blanc, puis ça serait le fun que les politiciens s'en rendent compte.
Ah, parfois, je vous trouve cheap. Mais je suis content. Si un jour, Nicolas Gagnon, tu es mon premier ministre du Québec, tu vas penser aux poches des contribuables avant de penser aux gens qui rêvent. T'as-tu vu, hier, j'ai trouvé que c'était un mauvais timing avec ce qui s'était passé dans le secteur de Montréal avec la fusillade, là, mais le PQ avait son conseil national sur les internets. Et là, on a dévoilé l'entièreté où, en fait, 95% du fameux livre bleu. Et là, on parle d'une monnaie québécoise. Je ne sais pas si on va appeler ça le pesos québécois, donc le PQ. Mais on propose des forces armées québécoises. On mentionne qu'on va abolir à peu près 70% de tous les organes fédéraux qui sont au Québec. Et on mentionne que pour les employés du gouvernement fédéral, on ne sera pas capable de tous les rembaucher. Fait que pour ceux qu'on ne sera pas capable de replacer dans les deux prochaines années, on va leur donner un genre de montant là, compensatoire. Est-ce que la Fédération canadienne des contribuables va se pencher sur le fameux livre bleu de Paul Saint-Pierre Plamondon? Puis est-ce qu'on va avoir des recommandations?
C'est une bonne question parce que nous, on refuse de s'engager sur le débat souveraineté ou tout débat constitutionnel pour ce que ça vaut. J'en parle souvent comme, mettons, quand on parle du gouverneur général, on ne veut pas abolir le poste, on veut couper les dépenses. Abolir le poste, c'est un débat constitutionnel, on le laisse aux avocats, on le laisse aux législateurs, bref, ce n'est pas notre débat. Maintenant, pour la Constitution, ou plutôt pour la séparation ou la souveraineté du Québec, je veux dire, honnêtement, on est encore à un point un peu trop... Il est encore trop tôt, en fait, pour établir si d'un, tout ça va se faire, si tout ce débat-là a de l'allure, puis si tous ces chiffres-là sont effectivement vérifiables. Il faudrait que je me penche un peu plus là-dessus. C'est sûr qu'un Québec souverain, entendons-nous, doit avoir une frontière qui va être administrée par le Québec, doit prendre le contrôle de ses infrastructures critiques, aéroports, les ports, etc., doit aussi avoir une armée pour assurer sa souveraineté. Ça vient avec un coût. Maintenant, on sait qu'on va sauver de l'argent qu'on n'enverra plus à Ottawa, mais cet argent-là, comme on le répète constamment, ça va être compensé ou ça va être dépensé à travers des programmes qui sont québécois. De la même manière que les organismes fédéraux risquent d'être remplacés par des organismes québécois par la suite, donc et qui vont être, encore une fois, peut-être subventionnés. Bref, tout ça, c'est quand même à considérer. Maintenant, est-ce que la souveraineté en vaut le coup? Est-ce que le Québec peut être souverain? Je vais mettre les choses au clair. D'un point de vue de droit international, le Québec a droit à la souveraineté comme n'importe quel peuple sur Terre. Et le Québec est une des places les plus riches au monde en termes de ressources naturelles, en termes de capital humain, de richesses humaines, de culture, etc. Donc, de dire que le Québec, oui, le Québec peut être souverain puis il y a les moyens de l'être. Maintenant, est-ce qu'on doit l'être? C'est une autre question. Puis est-ce que c'est le moment précis actuellement? Ça, c'est un autre enjeu également. Donc, le
surtout
livre
de savoir bleu, comment ça va me coûter.
Ben, c'est de savoir combien ça va coûter, puis il ne faut quand même pas se le cacher. Je veux dire, moi, je prends le Brexit, par exemple, qui a lieu... tu sais, le Brexit, ce n'était pas une indépendance là, par rapport à un pays, mais par rapport à une entente économique et commerciale, ouais, et politique, oui, avec l'Union européenne. Et ça a amené quand même beaucoup de turbulences politiques. Il y a eu, je pense, que 4 ou 5 premiers ministres qui ont été élus, qui ont démissionné depuis le Brexit. Donc, je ne veux pas dire « Ah, le Brexit, c'est une mauvaise idée ou c'est une bonne idée ». Mon point est qu'il y a des turbulences qui arrivent après. Donc, c'est bien beau produire un livre bleu, mais on ne peut, ouais, pas prévoir le futur. On ne peut pas prévoir comment les Américains vont réagir à la souveraineté québécoise parce que honnêtement, puis ça, c'est comme l'éléphant blanc dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, tout court, c'est si les Américains ne sont pas d'accord. Disons que le Québec fait une déclaration d'indépendance, puis les Américains ne sont pas d'accord avec ça, ça ne se fera pas. Je veux dire, je ne vois pas dans quel monde on peut se mettre à dos la plus grande puissance économique et militaire de l'histoire de l'humanité qui est à côté de nous, qui est un de nos plus importants partenaires commerciaux, qui pourrait nous mettre sous embargo. Je ne veux pas tomber dans les peurs. Mais il y a quand même tellement de facteurs à considérer avant même qu'on se rende à l'urne, aux urnes, puis qu'on réponde oui ou non. Puis je ne veux pas créer des peurs. Là. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire ou je ne veux pas dire qu'il faut le faire. Mon point reste que un livre bleu, c'est un exercice qui est très préliminaire, comme n'importe quel rapport qui peut publier, dont les données pourraient changer le mois prochain. Mais une chose est sûre, le pesos québécois, ça, j'y crois pas du tout, par exemple. je pense que c'est beaucoup mieux qu'on garde le dollar canadien ou qu'on prenne le dollar US. Je pense que ça serait beaucoup plus avisé là, que de créer une nouvelle monnaie qui serait facilement dévaluée.
Viva Santa Banana! Viva la Révolution! Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, c'est toujours un plaisir pour les gens qui veulent en savoir plus sur la Fédération. C'est contribuable avec un S.ca. Je te souhaite de passer une agréable soirée et on se reparle dans les prochaines semaines. Bon congé demain, mon ami!
Ben, toi aussi, puis à tout le monde, puis une très bonne Saint-Jean-Baptiste à tous les Montréalais, à tous les Québécois. Profitez-en. Reposez-vous mercredi si vous avez un peu trop mal à la tête à cause de la fête ce soir. Puis sinon, Yannick, ça va faire plaisir qu'on se reparle très bientôt.
Montréal, il fête ça demain. Québec, il fête ça à soir.
Yes. Ben, c'est ce soir que ça se passe.
Salut, Nick. Bye-bye.
Salut.
Un gros merci. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle jeudi. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir.
La saison est lancée à la baie de Beauport. Plage, activités nautiques, yoga, danse country et chansonniers vous attendent tous les